L'histoire nous est à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité.
Le témoin de ce vendredi, Samim Akgönül, d'Istanbul à Strasbourg.
L'armée turque vient de prendre le pouvoir. Le chef de l'état-major, le général Kenan Evren, fait arrêter à l'aube le premier ministre et les principaux hommes politiques. La loi martiale, qui était déjà en vigueur dans la moitié des provinces turques, est remplacée par l'état de siège à travers le pays.
Lors du coup d'état militaire de 1980, le troisième en 20 ans, notre invité avait 12 ans. C'est en matière politique son souvenir fondateur. Il est probable d'ailleurs que la mémoire de l'insécurité de cette époque a joué un rôle dans le comportement des électeurs turcs aux législatives du 1er novembre. La campagne du président Erdogan s'est largement fondée sur la peur du chaos qui habite encore les Turcs. En même temps, c'est le régime d'Erdogan qui, non content de se fâcher avec tous ses voisins, a chauffé les esprits les uns contre les autres. Les pouvoirs autoritaires attisent les conflits, puis promettent de les apaiser. C'est leur paradoxe. Le modèle qu'ils constituent progresse pourtant un peu partout, en Europe, Orban, en Hongrie, Kaczynski, demain peut-être en Pologne, sans parler de Poutine en Russie. Erdogan est une figure qu'il ne faudrait pas identifier à son seul caractère musulman. Il est un parmi d'autres. D'ailleurs, bien malin celui qui pourrait fédérer les musulmans de Turquie. Déjà, au XIIIe siècle, un poète y disait « Allah est grand, mais il y a 72 voies pour le rejoindre ». Et ce qu'on ne peut compter à l'intérieur est innombrable aussi dans la diaspora à laquelle notre invité appartient depuis un quart de siècle.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Samim Akgönül, bonjour.
Bonjour.
Vous racontez dans un volume collectif qui paraît dans quelques jours aux éditions Bleues Autour, qui s'appelle Une enfance turque, vos origines de Crète, d'Izmir, d'Istanbul. Vous n'appartenez pas à ces familles rurales qui ont tout plein d'enfants. Vous, vos parents ont choisi de fonder une famille de peu d'enfants qui allaient pouvoir donc connaître le tremplin social.
Certainement. C'était les années justement où, après la révolution kémaliste, s'était installée dans la petite bourgeoisie turque, notamment d'Istanbul, pas seulement, cette idée des familles très à l'européenne, avec peu d'enfants, installées en ville, et donc j'appartiens à ce genre de famille, et peut-être, à travers cette appartenance, j'ai pu, comme vous dites, obtenir une promotion sociale, et puis d'être en France, peut-être.
Alors la France, on en parlera tout à l'heure, c'est depuis 1990-92. Parlons du moment où il faut choisir le collège puis le lycée. C'est très, très important.
C'était très important. Ça a changé depuis, justement, les réformes. Vous savez, comme en France, en Turquie aussi, l'école est un enjeu politique et sociétal extraordinaire. Mais à mon époque, dans les années 70, il y avait donc des collèges, des lycées publics de l'État qui n'étaient pas très bien vus. Et il y avait à côté des collèges et lycées qu'on appelait privés, en réalité, qui appartenaient à des congrégations chrétiennes du 19e siècle, à la fois américaines, françaises, italiennes, autrichiennes, allemandes. Et il fallait passer un concours pour chacun de ces collèges. Donc j'avais passé ce concours-là. Et parmi ces collèges, il y en avait un qui est un peu spécifique, donc Galatasaray, qui délivrait à la fois un enseignement en français, mais qui était public, qui avait une spécificité, qui était public, donc gratuite. Et à l'époque, mes parents, qui n'avaient pas beaucoup de moyens non plus, ont préféré, sans être francophone d'ailleurs, ni francophile, m'envoyer à ce collège qui, certainement, a changé ma vie dans les années 80.
Autrefois, on l'appelait l'école des sultans. Le lycée était devenu un lycée français à partir de 1924. Dans un quartier un peu interlope. Hein.
C'est un quartier qui est très dynamique dans l'histoire.
Oui.
Il s'agit du quartier très européen au 19e siècle, qui devient un quartier très populaire à la moitié du XXe siècle après la République. Et à mon époque, à l'époque, donc à la fin des années 70 et à la fin des années 80, au début des années 80, c'est un quartier très mal famé, très populaire, où il y avait des bordels, des salles de jeu partout. Donc j'ai grandi dans cette,
vos
dans cette
atmosphère. Vos parents savaient que vous appreniez le poker?
Oui.
Avec une belle régularité.
Écoutez, non, parce que pour eux, l'idée était Galatasaray, qui avait gardé quand même son nom de prestige, mais de ce prestige à l'intérieur même de Galatasaray à l'époque. À l'époque, il n'en restait pas grand-chose, ni pour l'enseignement, ni pour l'atmosphère. Or, depuis, ça a changé, c'est redevenu très prestigieux. Moi, j'ai étudié à Galatasaray à son pire moment, peut-être.
Alors, ici, des échos favorables, puisque le reportage dont on va entendre un extrait date de 2012. C'est sur FR3, Jean-Christophe Chaton.
Entre deux cours, Olivier nous emmène dans le théâtre.
Nous y voilà.
L'endroit emblématique de l'établissement.
Là, on sent qu'on est dans une vieille institution de la ville.
Une vieille institution, parce qu'effectivement, ça sert de salle de théâtre, mais ça sert aussi de salle de réunion pour les anciens élèves de toute espèce de génération. Mais c'est vrai qu'il y a
un décorum,
un certain faste.
Et là-haut, donc, le portrait d'Atatürk.
Il est partout,
hein, dans les salles de classe.
Le portrait de Mustafa Kemal, mais enfin, avec son regard, il veille sur la Turquie et sur la jeunesse turque, la figure emblématique de la Turquie.
Qu'est-ce qui va se passer, là?
Alors ce matin, dès le lundi matin, il s'agit de l'İstiklal Marşı, c'est-à-dire l'hymne national turc, qui est chanté dans toutes les écoles, le lundi matin, début des cours, en début de semaine, et le vendredi après-midi, à la fin des cours, à la fin de la semaine. Alors non seulement c'est une tradition, mais c'est une obligation. Ça fait partie de l'appareil étatique et puis d'une pratique qui est bien ancrée dans les écoles en Turquie, qui s'inscrit dans l'idée qu'on a de la République et du pays.
Vos parents et votre mère en particulier, qui étaient filles de colonels kémalistes, étaient heureux de savoir qu'en revanche, vous chantiez l'hymne national avec une belle régularité.
Le contraire n'était pas possible. C'était tellement l'appareil étatique, l'appareil idéologique de l'État, surtout après le coup d'État militaire du 12 septembre 1980, était tellement ancré dans la vie quotidienne des gens, non seulement à Istanbul, mais à travers toute la Turquie, que le contraire n'était pas possible. Jusqu'à récemment, non seulement on chantait l'hymne national, mais également il fallait réciter une sorte de poème sur la fierté d'être turc. Maintenant, ça a été supprimé depuis 4 ans. Donc c'était quelque chose...
Un Turc ne peut avoir pour grand ami qu'un Turc.
Ah ben ça c'est un adage, évidemment. Mais tout ceci était justement la construction nationale, inachevée d'ailleurs, cette construction nationale, qui avait besoin d'ennemis, qui avait besoin d'une altérité forte et dangereuse. Et c'est sur cette altérité qu'avait été construite la nation turque, la construction nationale, et sur cette altérité, et sur cette animosité. Et c'était insufflé surtout dans les années 80, à travers les écoles, les journaux, les médias, dans l'ensemble des générations nées dans les années 60 et qui arrivaient à l'âge adulte ou adolescent dans les années 80.
Il faut dire que les militaires qui font un coup d'État en 60, dites si je me trompe, un autre en 71 et le troisième en 1980 avaient pour justification le redressement de l'économie qui s'était effondrée à la fin des années 1970, mais aussi la restauration des principes du kémalisme.
Il faut se souvenir que nous étions à l'époque pendant la guerre froide. Nous avons oublié maintenant l'atmosphère de la guerre froide, où cette atmosphère était vécue en Turquie dans une sorte d'autoritarisme, militarisme, fierté nationale, mais également une opposition très forte, très très forte à l'égard de tous les régimes socialistes, tous les régimes communistes, évidemment l'Union soviétique qui était tout près. Et les militaires en 1980 voyaient comme rempart principal contre le communisme, d'un côté le nationalisme très turc, et de l'autre côté, alors paradoxalement, l'islam. Mais un islam très nationalisé, d'où d'ailleurs, depuis 1982, les cours de religion obligatoires.
À Galatasaray, il y a depuis les années 80 des cours de religion.
C'est d'un côté une école très élitiste et très séculière, et de l'autre côté, les cours de religion étaient obligatoires pour justement la fierté nationale.
Mais il ne faut pas oublier aussi que dans les dernières années de la démocratie, avant le coup d'État de 1900,
80, s'était développée une insécurité telle que votre mère, vous racontez ça, dans une enfance turque, était très inquiète des enlèvements, des difficultés que vous pourriez connaître dans la rue. Il y avait 20 morts par attentat par jour en 80.
C'est vrai, effectivement, il y avait une insécurité, mais seulement après coup. C'est dans les années 90 que nous avons compris, et ceci en s'appuyant sur des documents d'archives, que cette insécurité avait été provoquée justement par les militaires pour pouvoir justifier un coup d'état militaire. Autrement dit, c'est un cercle vicieux, c'est un serpent qui se mord la queue. Il y avait de la violence dans la rue, tout le monde avait peur, et les militaires avaient tout intérêt d'augmenter et de provoquer cette peur, justement pour arriver comme sauveur de la République.
C'est ainsi que les autres contributeurs d'Une enfance turque, ce livre qui paraît chez Bleu Autour, explique que le coup d'État a pu être applaudi.
Elle a non seulement applaudi, mais en plus, après le coup d'État militaire en 1982, la Constitution, qui est toujours en fonction aujourd'hui de 1982, a été votée dans une telle atmosphère que plus de 90% des électeurs ont dit oui à cette Constitution très autoritaire, très jacobine, très centralisatrice, grâce à laquelle aujourd'hui, les leaders de la Turquie, dont le président actuel, peut encore gouverner le pays.
En même temps, après le coup d'État, terrible répression, des dizaines de milliers de morts, 30 000 procès, 25 000 prisonniers politiques, on était sensible à la Turquie, à cet aspect de la Turquie dans le monde occidental au début des années 80, à tel point que la Palme d'Or du Festival de Cannes a été donnée à un cinéaste turc.
Kurde,
qui s'appelait Yılmaz Güney, qui n'était pas un homme commode. Hein.
Non, difficile à vivre, mais un grand artiste
et
un grand militant.
Yol, c'est un chef-d'œuvre dont on entend ici un extrait. Il raconte la sortie de 5 détenus politiques pour une permission de 8 jours. L'un d'entre eux, c'est Omer, et il va rejoindre justement son village kurde, et la mère parle du sort de son fils.
Je suis à bout, j'en peux plus. Mon fils, un jour, ils l'amèneront mort.
La ferme avec sa mère, de la ferme. Dieu le protège. Dieu est avec lui.
Il est à l'abri, au moins.
Comment veux-tu qu'un homme traqué le soit? Même si un jour ça marche, le lendemain, il y a danger. Les dénonciateurs...
Tout ce que je souhaite, c'est qu'il ne sache pas que tu es arrivé. Sinon, il va vouloir te parler.
Ne pense pas toujours au pire.
S'il le trouve, il le tuera.
Courage, courage, courage.
S'il essaye de rentrer les soldats là-bas, il le traque.
Parle pas toujours de malheur. Courage, courage, courage.
Comme ça tous les soirs.
Bah oui, les temps sont difficiles. Les gendarmes rôdent partout, presque chaque jour des rafles tous les jours et des morts tous les jours. Les militaires, ça ne pardonne pas. Alors la peur est entrée dans les maisons. C'est à un point que on n'ose même pas réclamer nos morts. Et en plus, un Kurde, il est vraiment foutu.
Les militaires accentuent la turcité qui est défendu par le kémalisme, parce que l'Empire était fait de bouts de morceaux et de minorités, et la nation turque n'existait qu'à peine à la chute de l'Empire. Il fallait la construire en limant les minorités.
C'est exactement ça. Il y a eu deux voies. Pour les fondateurs de la République, mais également pour les militaires par la suite, pouvaient être turcs que des musulmans. Donc les non-musulmans, il fallait les écarter. Il y a deux étapes très importantes. Il y a le génocide arménien de 1915 et il y a l'échange obligatoire entre la Grèce et la Turquie de 1923 qui décime complètement les groupes, on peut même pas les appeler les minorités puisqu'ils étaient des propriétaires de ces terres, des groupes non-musulmans. De l'autre côté, les musulmans non-turcs, non-turcophones, devaient être assimilés, bien entendu, à la turcité, à travers l'éducation, à travers l'interdiction des langues, à travers l'interdiction d'une manière d'être non-turque. Mais peut-être que ce projet a réussi, dans la mesure où l'ensemble des groupes musulmans non-turcs ont pu être assimilés parce qu'ils venaient d'ailleurs, des Balkans et du Caucase notamment, mais pas les Kurdes. Les Kurdes étaient et le sont toujours d'une population autochtone, très nombreuse. Donc on refusait depuis 1923, la première révolte kurde date de 1925, jusqu'à aujourd'hui, à être assimilée, à être folklorisée, à disparaître. Et aujourd'hui, nous sommes encore en train de vivre les conséquences de cette fracture qui date des années 1920-25.
Il est une minorité composée pourtant parfois de Kurdes. Les Alevis sont peut-être 15% de la population turque, qui se sont peut-être moins mal accommodés
du kémalisme. Qu'est-ce que c'est les Alevis ?
C'est vrai. Alors, donc, c'est la minorité principale religieuse de Turquie. Il s'agit d'une religion hétérodoxe, une religion syncrétique. Pour certains, la vraie religion des Turcs, qui est un mélange à la fois de la religion musulmane, mais d'autres religions autochtones, mais qui se caractérise par une manière de vivre et manière de vivre la religion autrement que les sunnites. Les Alevis en Turquie, effectivement, peut-être 15, voire peut-être 20% de la population de Turquie, se sont accommodés avec les kémalistes parce que les kémalistes ont voulu contrôler les sunnites qui les avaient oppressés pendant des siècles. Donc du coup, le sécularisme kémaliste leur convenait très très bien.
C'est un dégradé subtil, l'alévisme et l'ensemble de la Turquie. Voilà un chanteur alévi bien connu, Ulas Özdemir.
Arzusun çektiğim gül yüzlü dostum erenlerinde mi nurdan sayılır onki imam hatarına dizilen Muhammed Ali'ye yardan sayılır yardan sayılır İhlas ile giden Bu yoldan dönmez Dost olan dostundan ikilik bulmaz Veri hak bilmeyen hakkı bulamaz Gözü bakar ama körden sayılır Körden sayılır Abdal bir sultanım Bağdat'tır vatan İkilikten çıkıp birliğe bitsen Erenler yoluna kıyıl halk atan Yolun dikenidir yoldan sayılır Yoldan sayılır
La marche de l'histoire Jean Lebrun sur France Inter
Le témoin de ce vendredi, Samim Akgönül, vous nous racontiez votre enfance turque, telle que vous l'avez fait dans un livre qui paraît dans peu de jours chez Bleu Autour. Après, on ne va pas vous suivre pas à pas à la faculté, l'université technique d'Istanbul, à votre arrivée en France, au début des années 90. Vous étiez interprète en même temps que vous faisiez
j'étais
vos études.
J'étais interprète, j'ai été guide touristique. J'ai
non,
tout
mais
fait
je vous parle du métier
ma
d'interprète parce que le conseil départemental de la Drôme vient de dire qu'il ne fallait pas favoriser le communautarisme et il veut couper les subventions aux interprètes qui interviennent dans les hôpitaux, dans les établissements administratifs. Drôle d'idée, non ?
C'est une très très drôle d'idée, c'est une idée paradoxale dans la mesure où on retire à ces gens-là le pouvoir de s'exprimer. Je ne parle pas des interprètes, mais je parle de ceux qui sont interprétés pour pouvoir s'exprimer. C'est une très drôle d'idée.
Dites-moi, vos enfants vivent à Strasbourg, où vous enseignez depuis de nombreuses années à l'université. Je comprends pourquoi certains Alsaciens sont rétifs devant la présence du groupe turc. C'est la plus importante communauté étrangère en Alsace et en Moselle. Vos enfants sont quadrilingues.
Oh ben écoutez, ils sont nés en Alsace d'abord, dans une atmosphère très plurilingue, en France, mais où l'éducation pouvait se faire en bilingue, ce qu'ils ont fait, en français et en allemand, ayant appris l'anglais, bon, connaissant le turc à travers leur père. Évidemment, ils se sentent comme des poissons dans l'eau dans différentes langues.
C'est-à-dire que vous êtes une famille idéal selon les critères alsaciens, avec des enfants bien éduqués, une maison avec des géraniums.
Une maison, oui, elle a des géraniums, effectivement.
Ben, voyez.
Mais il faut quand même se dire que en Alsace, depuis des années, cette idée de la réticence à l'égard de ceux qui ne sonnent pas très alsaciens, pas seulement des Turcs. Hein, moi, je parle des Haut-Rhinois dans le Bas-Rhin, des Bas-Rhinois dans le Rhin. Cette idée a malheureusement bien avancé. C'est une des régions qui vote le Front National très élevé, très très élevé depuis les années 90.
Oui, mais dites-moi, il n'y a pas de fumée sans feu, diraient les mauvais esprits. Souvent, les Turcs d'Alsace, bon, ils se sentent strasbourgeois ou mulhousiens, mais ils se sentent même pas Turcs. Ils se sentent de la région d'origine, ouais, que parfois ils ne vont plus voir, qu'ils connaissent à peine, et où les mariages, souvent.
s'organisent.
La micro-appartenance et la reproduction de cette micro-appartenance est une donnée constante chez les originaires de Turquie vivant en Alsace, en France d'une manière générale, mais vivant plus particulièrement en Alsace. Ceci est dû, à mon avis, à ce que les deux idées nationales en Turquie et en France se ressemblent beaucoup, qui refusent totalement la pluri-appartenance. Nous sommes en même temps français et en même temps turc. J'aime bien Charles Aznavour qui dit « Je me sens 100% français et 100% arménien ». Moi aussi, je me sens 100% turc et 100% français.
Oui, mais on aime bien de part et d'autre les processus d'unification. Par exemple, le jacobinisme français, même s'il est moindre en Alsace-Moselle avec le statut concordataire, aimerait qu'il y ait des grandes mosquées. Mais alors, au nom de ces micro-appartenances, les musulmans turcs disent « Non ». Nous, on veut pas de grande mosquée. D'abord, on comprendrait rien de ce qui se passe dans une grande mosquée, parce qu'on n'apprend pas l'arabe en Turquie.
Non, bien sûr. Et donc, il s'agit d'une langue qui est totalement différente. Et lors du projet de la construction de la grande mosquée de Strasbourg, en réalité, les originaires de Turquie ne se sont pas sentis concernés. Et là, une grande confrérie, la Vision Nationale, vient d'obtenir l'autorisation à Strasbourg, de raser les anciens entrepôts qui servaient comme mosquée et pour construire une mosquée turque, très à la turque et très turque.
Mais attendez, des lieux de culte très à la turque, ça veut dire que il faut des lieux de culte pour les imams du Dinayet, c'est-à-dire du ministère des affaires religieuses d'Ankara, qui nomment des imams. Souvent, c'est les imams qui parlent le plus mal français, d'ailleurs, parce que...
Ils parlent le français, puisqu'ils viennent ici pour 3 ans, pour 4, oui. pour 4 ans. Là, Milli Gürüş est un peu différent, puisque c'est une confrérie qui n'est pas étatique, mais qui est très proche de l'État.
Alors, qu'est-ce que c'est, ces confréries? Le Coran, c'est le pain, et les confréries, c'est les fruits.
La confrérie, une confrérie, tarikat, ça veut dire la voie. Vous avez cité les 72 voies, c'est une des voies pour atteindre Allah. Et donc, dans l'islam populaire de Turquie, ces confréries étaient très très actives jusqu'aux années 1920. Les Kémalistes, justement, voyaient des concurrents dans ces confréries, les ont interdits, mais les confréries sont restées très actives souterraines, d'une manière souterraine. Et à partir des années 60, 50 et 60, il y a la renaissance des confréries. Et aujourd'hui, elles sont encore très forte.
Alors justement, on pourrait multiplier l'étude des différentes confréries. Le président Erdogan multiplie les coups contre Fethullah Gulen, qui est implanté en Alsace, vous nous le direz, mais dont le leader est aux États-Unis. Alors voilà deux sons de cloche différents sur Fethullah Gulen.
C'est depuis les États-Unis que Fethullah Gulen dirige la confrérie qu'il a fondée dans les années 70. Un ensemble hétéroclite de médias, d'organisations patronales et surtout un réseau d'écoles, notamment les dersanés, ces cours du soir fréquentés par la quasi-totalité des élèves turcs.
Ici, on ne prépare pas seulement aux examens, on prépare à la vie. Les élèves apprennent à anticiper les situations auxquelles ils seront confrontés plus tard. La bonté, le droit universel, ne pas être corrompu, ne pas voler, rester maître de soi. Ici, ils apprennent à tenir ce rôle et à devenir des modèles.
Les adeptes de Fethullah sont partout et ils infiltrent tous les rouages de l'État. La police, l'armée, le gouvernement, l'administration, jusqu'aux sous-préfectures. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme un virus qui s'insinue petit à petit dans le corps et que rien ne pourrait arrêter.
Un reportage d'Euronews. Alors, un virus, une organisation de soutien pour un islam de compréhension qui ne soit pas un islam d'imitation, les interprétations les plus diverses vont leur train.
Eh bien, parce que justement, c'est une organisation qui a plusieurs faces, plusieurs facettes. Vous avez bien souligné le fait qu'il s'agit d'un réseau médiatique d'hommes d'affaires et d'écoles, mais pas de réseau de mosquées, par exemple. Il n'y a pas de mosquée, Fethullah. Il s'agissait d'un ancien partenaire du pouvoir actuel en Turquie, qui a œuvré pendant des années, mais à partir du moment où les accusations de corruption énormes du gouvernement ont pu mettre à jour, sont devenus des frères ennemis. Aujourd'hui, c'est des ennemis. Et comme, justement, c'est un réseau de médias, en Turquie même, depuis les élections, même avant les élections, il y a eu des descentes sur le média, vers les médias de Fethullah Gulen, d'une manière totalement illégale, il faut le dire, et autoritaire. Aujourd'hui, le réseau est un réseau très grand, à travers l'Europe, à travers l'Afrique, à travers les États-Unis et un tout petit peu l'Asie centrale, moins maintenant. Des dernières années en Turquie, mais qui sont en mauvaise posture à cause de la pression et de l'oppression de l'État.
Et en Alsace-Moselle.
Et en Alsace-Moselle, ils se sont implantés très tardivement. D'ailleurs, d'une manière générale, en Europe, ils sont implantés très tardivement. Il existe évidemment des structures proches de Fethullah Gulen.
Soutien scolaire,
des dortoirs, des étudiants, des familles modestes, ça existe bien entendu, mais la vraie implantation est en Afrique, aux États-Unis et en Asie centrale.
Je suis sûr que les membres de Fethullah Gulen n'ont pas été nombreux à rejoindre le meeting qu'avant les élections du 1er novembre, le 4 octobre précisément, le président turc tenait à Strasbourg, dans l'équivalent d'un zénith. Il y avait beaucoup de monde.
C'était au zénith.
Nous ne sommes pas en Turquie, mais à Strasbourg. C'est ici que le président turc Recep Tayyip Erdogan a rassemblé hier plus de 12 000 de ses sympathisants à moins d'un mois des législatives. Le chef de l'État s'en prend particulièrement au parti pro-kurde HDP, dont le score aux dernières législatives affaiblit le parti au pouvoir. Notre problème, c'est le terrorisme et les terroristes, dit-il. Le groupe terroriste PKK et le parti qui s'appuie sur le terrorisme ne sont pas les représentants de nos frères et sœurs kurdes. De Strasbourg, hier, à Bruxelles, aujourd'hui, le président turc semble vouloir séduire les électeurs résidents à l'étranger et qui pourront voter par anticipation dès dimanche. Inacceptable pour ces manifestants hostiles à Erdogan.
Je trouve qu'il n'a pas du tout sa place ici. En tant que président, il n'a pas à venir à des fins électorales pour mobiliser les Turcs d'Europe.
Les détracteurs du président turc l'accusent d'attiser les tensions nées de la reprise du conflit kurde pour prendre sa revanche sur le HDP, dont le score lors des dernières législatives lui avait fait perdre sa majorité absolue au Parlement.
Alors nous avions un envoyé spécial, c'était encore un reportage d'Euronews à l'instant, c'est Samim Akgönül qui était là. Alors vous avez pris place, c'est la première fois qu'on voit ça dans un zénith, du côté des hommes, de l'autre côté il y avait des femmes, c'est ça?
Ah non, j'étais pas au zénith, j'étais à la manifestation.
Ah,
je n'étais certainement pas au zénith.
Ah bah ça m'aurait intéressé que vous ayez été au zénith.
Certainement au zénith, mais à la manifestation donc des Strasbourgeois et des Strasbourgeoises qui dénonçaient cette manipulation du vote de la diaspora, justement en plus en scindant la population de Turquie, non seulement en Turquie, mais également dans la diaspora. Aujourd'hui, on récolte les fruits de cette scission identitaire. Chaque fois qu'il y a une crise politique, on voit en Turquie l'État et le président en question s'appuyer sur les divisions ethniques et religieuses. Et ça s'est reproduit à Strasbourg au Zénith.
Je rappelle le titre du livre auquel vous avez contribué, Samim Akgönül, Une enfance turque chez Bleu Autour. Il y a quand même des absents de notre conversation. Et vos parents? Alors, votre frère est parti aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il fait aux États-Unis?
Il travaille. C'est devenu un homme d'affaires informaticien. Il travaille à Boston. Il vit à Boston. Donc, c'est une famille très éclatée.
Et vos parents, dont il est question dans le livre?
Ils sont toujours à Istanbul. Toute ma famille est à Izmir. Les tantes, les oncles, mais mon père et ma mère sont toujours à Istanbul, vivent toujours à Istanbul.
Ce qui est une grande difficulté pour eux ou pour vous?
Plus l'âge avance, le nôtre et le leur, plus ça devient difficile, bien sûr.
C'est donc une question qu'il faut poser quand on parle de la diaspora.
Mais bien entendu.
Celle du sort des parents restés au pays. Merci à vous. L'émission a été réalisée par Stéphane Ronxin, avec Philippe Duclos à la technique, l'équipe de la Marche de l'Histoire, Frédéric Martin, Franck Oliva, et Ilinka Negulesco. Dans un instant, dans la tête au carré, le club de la tête au carré, il va même être question des dinosaures à plumes.